Bien, bonjour à tous, je suis très heureux de vous accueillir pour la 7e édition des Journées de l'économie. Je ne sais pas exactement à qui je parle aujourd'hui, puisque vous savez qu'on diffuse en direct pour la première fois les Journées de l'économie. Donc j'espère qu'en fait, nous avons une salle très très grande, un opéra qui dépasse largement ses murs. Et comme chaque année, on va commencer par présenter un sondage sur les Français et l'économie. Et d'abord, je souhaiterais donner la parole à Alain Mérieux, le président de la Fondation pour l'Université de Lyon. Et pour moi, ce n'est pas anecdotique, parce qu'avant que les Journées de l'économie existent, c'était en 2007, c'est un monsieur que j'ai été rencontré en disant « j'ai un projet fou, est-ce que vous pensez qu'on peut le réaliser ?» Et bien, je peux vous dire qu'en 2007, ils étaient très peu nombreux à me dire « oui, vas-y, c'est un projet qui peut se réaliser ». Donc, je suis très heureux de donner la parole aujourd'hui.
Merci. Ce qui prouve qu'en 2007, j'étais beaucoup plus intelligent que maintenant, beaucoup plus jeune. Non, c'est une joie pour moi, en tant que président de la Fondation pour l'Université, qui abrite ces Journées de l'économie, d'être là pour la 7e rencontre. Et nous en parlions avec le sénateur Maire. C'est vraiment un événement aujourd'hui qui a pris toute sa dimension et qui permet d'aborder des problèmes de fond dans une ambiance d'échange, de partenariat et de respect mutuel qui est très agréable. Donc je pense que ces journées ont pris une importance vraiment grande. Je félicite Pascal pour avoir mené ces journées depuis 7 ans. C'est l'âge de raison. Hein, et je crois qu'elles s'inscrivent vraiment dans la volonté que nous partageons tous de développer notre ville, développer notre pays et résister, pour ne pas dire écraser, cette espèce de virus dangereux qui est celui du pessimisme latent que nous ne connaissons pas au Canada, n'est-ce pas, mon cher Pierre-Marc, hein. Le Canada est optimiste et nous sommes pessimistes, et c'est ça, on ne gagnera que dans la mesure où nous retrouvons l'optimisme. Voilà, donc bonne journée, et puis bravo pour ce que vous faites.
Merci beaucoup. On présentera les intervenants au fur et à mesure des interventions, et donc on va commencer très vite, parce qu'on est déjà en retard, c'est absolument fabuleux, par la présentation du sondage sur les Français et l'économie par Patrick Haas, sondage Banque de France, TNS Sofres.
Bonjour à tous. Alors je ne vais pas vous présenter ce matin de photographie panoramique d'une comète, mais une petite photographie de l'état de l'opinion publique. Alors, le sondage est réalisé dans les règles de l'art. Ah. On va essayer de répondre à deux questions. La première question, c'est quel est l'intérêt des Français pour l'économie? Et la deuxième question, elle porte sur, en fait, les perspectives de la situation économique. Alors, sur la première question, j'ai un petit problème de zapette. Quel est l'intérêt des Français pour l'économie? Cet intérêt est à la fois majoritaire, puisque vous avez 2/3 des Français qui sont intéressés par l'économie, c'est une bonne nouvelle, et la deuxième bonne nouvelle, c'est que c'est un intérêt qui est en progression par rapport à l'année dernière. L'intérêt est un peu plus marqué, en fait, pour les ménages les plus aisés, mais également pour les plus de 50 ans. Les Français sont-ils bien informés sur l'économie? À cette question, sur le niveau d'information des Français en économie, ces Français, en majorité, sont bien informés, puisque 62% des Français se déclarent bien informés. C'est une question qui porte en fait sur le flux d'informations. Mais la question qui peut se poser, c'est cette information est-elle compréhensible? Cette question a été déjà posée en fait en 2012, elle porte sur le traitement de l'information. Et là, il faut bien voir que le cumul d'incertitudes, notamment des analyses économiques parfois contradictoires, l'absence de consensus, constitue un facteur d'incompréhension, peut-être un facteur anxiogène. Et donc, près de 60% des Français considèrent que l'information économique n'est pas compréhensible. À noter un léger effet de posture sur cette réponse, où près de la moitié des hommes, curieusement, ils estiment que l'information économique est compréhensible, mais seulement 1/3 des femmes. Alors, la question c'est, quels sont les sujets sur lesquels les Français souhaitent être mieux informés? Et là, les Français semblent avoir un souhait pour être mieux informés sur la situation de l'État et des finances publiques, question d'ailleurs qui intéresse davantage les catégories socio-professionnelles les plus aisées et les hommes, alors que le fonctionnement de la protection sociale ou les retraites sont l'objet d'un intérêt plus prononcé de la part des seniors. Voilà quelques éléments sur la situation et l'appétence vis-à-vis de l'économie. Et le deuxième partie du sondage a trait, en fait, à la situation économique. Les Français apparaissent, en fait, inquiets sur la situation économique. Il y a à la fois une inquiétude sur les indicateurs économiques, inquiétude d'abord sur la situation des finances publiques, qui est très largement majoritaire dans l'opinion, avec 80% des Français qui se déclarent inquiets. Donc c'est une inquiétude qui est légèrement croissante avec l'âge, mais une préoccupation bien ancrée dans l'esprit des Français. Il y a également un deuxième biais, qui est un biais pessimiste, qui porte, en fait, sur le niveau de hausse des prix. Lorsqu'on observe le niveau de hausse des prix tel qu'il est estimé par les Français, il faut voir qu'à peu près 60% des Français estiment qu'il a augmenté de plus de 1%, alors qu'en réalité, lorsque l'on lit les analyses et les données publiées par l'INSEE, il y a eu encore ce matin un chiffre qui montre que l'inflation n'a augmenté que de 0,5%, au moment du sondage, l'inflation en glissement était de plus de 0,3%, donc on a toujours un écart de perception entre l'inflation mesurée et l'inflation perçue. Et cet écart, qui n'est pas propre à la France, ne s'est pas réduit en fait dans un contexte d'inflation faible. Les Français sont donc en fait pessimistes sur les indicateurs, mais ils sont également pessimistes globalement sur la situation économique. En effet, lorsqu'on pose une question sur la situation au cours des 12 prochains mois, la perception est teintée de pessimisme. Presque près de la moitié des Français interrogés estiment qu'il va se dégrader. C'est une dégradation qui est plus prononcée par rapport à la même question qui était posée l'année dernière. Elle s'est accentuée à peu de 9 points. Inquiétude qui est d'ailleurs plus marquée, en fait, dans les catégories plus modestes, qui sont plus affectées par la crise, par la dégradation de l'emploi, que dans les catégories aisées. Vous avez effectivement une inquiétude assez prononcée. Alors, les Français, ils sont inquiets à court terme, mais ils sont aussi inquiets, il faut bien le dire, sur le long terme. Et si on leur demande, est-ce que vous pensez que la situation économique des enfants nés sera moins bonne par rapport à celle de leur génération, nous avons un sentiment de dégradation avec les trois quarts des Français qui pensent qu'elle sera moins bonne. Ce pessimisme est un peu moins prononcé pour les moins de 35 ans, qui ne sont que 20% à penser qu'elle sera identique. Alors, quelles sont les raisons de ce pessimisme? On essaie de poser quelques questions pour savoir d'où viendrait ce pessimisme. Alors, on a deux éléments de réponse. Le premier élément de réponse, qui est plus prononcé chez les jeunes, c'est en raison de la situation économique du pays. 60% des moins de 35 ans y font référence. Mais également un sentiment de déclin de la France, qui affecte les plus âgés des personnes interrogées. Alors, il y a quand même un contraste assez saisissant qu'on va découvrir au prochain transparent entre un pessimisme collectif qui est prononcé et un optimisme relatif à l'optimisme individuel. C'est ce qu'on va voir lors du prochain transparent sur la situation personnelle. Alors, quand on interroge les Français sur la situation personnelle, qu'est-ce qu'ils répondent? Ils sont aux deux tiers optimistes. Optimisme marqué chez les moins de 35 ans, optimisme plus marqué dans les catégories aisées. Donc, effectivement, nous avons cette forme de dichotomie où les Français voient la situation économique en gris, voire en noir, mais leur situation individuelle est plus rose. Alors, que faire pour stimuler la croissance économique? Ce sera le dernier point. Je signale que le total des réponses est évidemment supérieur à 100, puisque les Français pouvaient répondre à deux items. Peu d'évolution par rapport à l'année dernière. On a introduit un nouvel item qui est baisser les impôts des entreprises. les réponses sont assez auto-centrées, c'est-à-dire que les CSP les moins favorisés sont pour augmenter les petits salaires et baisser les impôts des ménages. Et en filigrane, on a un peu un débat entre faut-il stimuler la demande ou faut-il stimuler l'offre. Et donc on a un peu plus de réponses en faveur d'une stimulation de la demande. Voilà. Que retenir du sondage ? D'abord, une bonne nouvelle, c'est un intérêt des Français pour l'économie qui est en progression, 6 points par rapport à l'année dernière. Une opinion qui est divisée entre un pessimisme collectif mais un optimisme individuel. En tout état de cause, il est indispensable de faire œuvre de pédagogie, de briser la glace entre les Français et l'économie. C'est l'ambition des journées de l'économie. C'est aussi un des objectifs de la Banque de France, qui a lancé un projet ambitieux de création d'une cité de l'économie de la monnaie, qui vise là aussi à combler ce gap entre les Français et l'économie. Et je vous invite aussi à découvrir l'exposition photographique à l'instigation de la cité de l'économie, qui aura lieu dans le hall de la Chambre de commerce, sur le thème photographique « Progrès ou déclin, l'économie en photo ». Merci de votre attention.
Merci beaucoup, Patrick Haas, pour cette présentation du sondage. Je pense qu'il est intéressant tout de suite d'avoir le regard de Pierre-Marc Johnson, donc ex-premier ministre du Québec, avocat, qu'on va retrouver plusieurs fois dans la journée. Et j'en suis très heureux, parce que je souhaite depuis longtemps qu'avec le Québec, on ait davantage de liens dans le cadre des journées de l'économie, ce qui a commencé à se développer. Donc je trouve que c'est un très bon signal pour cette année 2014. Et il y a peut-être quelque chose qui doit vous amuser. Je ne sais pas si pour les Québécois, vous avez la même vision que ce qu'on vient de voir là. À chaque fois qu'on fait un sondage, les Français disent on est assez pessimiste, on est sur le déclin, la situation va de plus en plus mal. Et quand on leur demande en effet, et vous, votre situation personnelle, ça va pas mal, on est plutôt optimiste. Pour nous, ça va. Comment on peut avoir cette dichotomie incroyable sur une vision collective négative et une vision individuelle qui est plutôt positive ?
Alors, d'abord, merci de m'avoir invité à être le grand témoin. Et merci en particulier à M. Mérieux de participer à autant d'organisations qui impliquent la ville lyonnaise, y compris les entretiens Jacques Cartier que j'ai l'honneur de présider. J'ai jeté un coup d'œil sur ce sondage. Je dois vous dire tout de suite, au départ, je ne suis pas un spécialiste de l'interprétation des sondages. Ceux qui ont fait de la politique en général s'en servent un peu. Ça ne veut pas dire qu'ils les comprennent. Il y a un certain nombre de choses qui m'ont frappé malgré tout. Le fait d'abord que les gens s'intéressent à l'économie et disent un peu la comprendre, mais malgré tout, une majorité d'entre eux considèrent que leur information économique qui leur est rendue est incompréhensible. C'est pas la seule contradiction qu'il y a dans ce sondage. À la question sur la situation de la dégradation, un tiers de la population est dans le statu quo, 55% sont dans la situation va se dégrader. Donc, ça démontre qu'il y a une absence de perspective, une absence de, on dit parfois chez nous, de oomph. Hein? Les choses iront bien. Il y a des choses qui sont porteuses autour de nous. Bon, alors il y a quand même ici 80% de la population, presque 90% de la population interrogée, qui considère que la situation va se dégrader. J'essaie de mettre ça dans une perspective. Qu'est-ce qui peut amener les gens comme ça? Alors, je le dis pas méchamment à l'égard des médias, mais je pense que c'est largement un phénomène médiatique. Si les gens voient leur propre situation personnelle comme étant finalement assez bonne, voient dans leur vie une situation dont ils ne se plaignent pas, mais voient pour la collectivité que ça va mal, c'est parce qu'ils sont influencés par quelque chose. Alors, ils sont influencés, à mon avis, par deux choses. Ils sont influencés d'abord par des problématiques très, très bien cernées dans ce sondage touchant la situation des finances de l'État, qu'on voit encore dans la plupart des sociétés occidentales comme étant une source de réponse aux besoins des gens, à leurs aspirations ou à leurs inquiétudes. Et deuxièmement, parce que, bon, les médias ne sont pas dans le business des choses qui vont bien. On vend de la copie si ça va mal. Vous pourriez demander ça à bien des gens aujourd'hui, y compris au gouvernement actuel en France. Quand on voit la situation politique chez vous, quand on voit la désaffection du public à l'égard des processus politiques, chez nous, c'est remarquable. Indépendamment des gouvernements, il y a une distance que les citoyens prennent par rapport au pouvoir politique. Et ce sondage, à mon avis, révèle que le sentiment d'aliénation de la population à l'égard du processus politique les amène à se concentrer sur eux-mêmes. Et qu'est-ce qu'ils voient comme solution? Bien, ils voient une diminution des impôts et une augmentation des salaires. Et ça veut dire quoi, cette façon de voir la réalité? Nous allons améliorer la situation de l'économie si on diminue les impôts ou si on augmente mon salaire, ou de préférence les deux, parce que j'exercerai des choix. Et je crois qu'il y a une forme d'individualisation à cause de la situation, de la mondialisation, à cause des images violentes qu'on voit à la télé de ce qui se passe ailleurs. Il y a un retour et un recentrage des gens sur eux-mêmes qui, à mon avis, est manifeste dans cette question, où on dit ce qui améliorera la situation de tous, c'est la diminution des impôts de chacun. Donc, la capacité de chacun de porter plus de choix dans sa vie, donc une démarche individuelle. Et je pense que ce sondage démontre, en gros, que les gens sont dans des démarches individuelles beaucoup plus que collectives maintenant.
Je pense que derrière cette question de démarche individuelle, souvent, ça prend tout son sens sur les territoires. Et Gérard Collomb, qui est président du Grand Lyon, je pense, est très bien placé pour faire le lien, puisque si on regarde dans le sondage, on nous dit 55,7% des sondés pensent que la situation économique de la France va se dégrader au cours des 12 prochains mois. Si je regarde d'ailleurs le chiffre du côté des ouvriers, le chiffre est encore plus élevé. C'est assez intéressant quand on détaille le sondage par catégorie. Et en même temps, on nous dit que la première action, en effet, engagée, c'est augmenter les petits salaires, ce qui revient pratiquement, d'ailleurs, tous les ans. Et pour le politique, je trouve que c'est une vraie question, parce qu'on vous dit qu'il faudrait donner la priorité à l'augmentation des salaires, même si la situation se dégrade. Comment on peut répondre à ça?
D'abord, dans l'analyse qui est faite, est-ce que, finalement, il y a des causes objectives au pessimisme des Français? Je crois, bien évidemment, lorsque l'on regarde la situation sur les 10 dernières années, on ne peut quand même qu'être frappé par un constat de difficulté de la France. J'ai regardé un certain nombre d'indicateurs. En 1995, la part du PIB par habitant en France était 75% de celui des USA. Dans les pays rhénans, c'était 82%. Dans les pays scandinaves, c'était 74%. Lorsque l'on regarde sur 2014, on s'aperçoit qu'en France, ça a diminué pour passer à 69%, que dans les pays rhénans, on a augmenté de 82 à 83%, et dans les pays scandinaves, on est passé de 74% à 77%. Lorsque l'on regarde la balance commerciale française, en 1995, on avait un excédent du PIB de 0,7. Aujourd'hui, on a un déficit de 70 milliards. L'Allemagne, elle, a un excédent de 200 milliards. Enfin, quand on regarde la part de marché de la France dans la zone euro, en 2000, on était à 12,8. Aujourd'hui, on est à 9,1. Donc, évidemment, qu'il y a un constat objectif. Alors après, la problématique, c'est qu'évidemment, tout le monde, comme vient de le dire Pierre-Marc Johnson, souhaiterait à la fois voir augmenter les salaires, les bas salaires, avoir moins d'impôts à payer, ça semble quelque chose de naturel. Mais quand on regarde quelle est la cause aujourd'hui de la dégradation de la situation économique de la France, on s'aperçoit en fait que nous sommes dans une situation où les salaires, Patrick Artus le dira sans doute tout à l'heure, ont augmenté plus que la productivité. Donc, il y a eu une dégradation de la compétitivité de notre industrie. Et donc, de notre industrie, de notre économie en général, mais plus particulièrement de notre industrie. Donc, aujourd'hui, nous sommes en grande difficulté. Et donc, les entreprises manquent de marge. C'est le plus bas taux de marge dans l'Union européenne. Et donc, à partir de là, elles n'investissent plus. Et nous sommes dans un cercle infernal où, petit à petit, nous nous enfonçons dans le déclin. Nous perdons de plus en plus de parts de marché, de plus en plus d'entreprises ferment. Alors, sur la question des bas salaires, un des problèmes en France, c'est qu'on a un secteur relativement protégé. On en parlera peut-être tout à l'heure sur donc les réformes structurelles. Les insiders, pour eux, à la limite, ça va encore. Mais le problème, c'est qu'il y a une barre terrible pour faire partie des insiders. Et notre taux de chômage, de contrats aidés, d'emplois d'avenir, eh ben, c'est un peu dû au fait qu'il y a deux sociétés qui coexistent, une où l'on est dans le système et donc l'autre où on n'y est pas. Donc aujourd'hui, on a un système qui est à la fois inefficace d'un point de vue économique, contre-productif et en même temps qui est injuste sur le plan social. Et les inégalités se sont accrues en France, bien que l'effet redistributif ait été chaque fois un peu plus fort. C'est peut-être de manière différente qu'il faut analyser les problèmes et essayer de faire en sorte qu'il y ait de la mobilité dans notre pays, faire en sorte qu'il n'y ait pas des gens qui sortent, on en parlera peut-être tout à l'heure, du système scolaire sans formation et donc qui, évidemment, ne peuvent être que dans des emplois peu rémunérés par rapport à la productivité. C'est ça, à mon avis, le vrai problème de la France.
Merci beaucoup. On est déjà entré dans une véritable analyse économique qui pourrait être utile pour comprendre finalement la situation. On pourrait continuer avec Jean-Louis Gagnaire, député, vice-président de la région, parce que sur ce sujet économique, quand même, on voit que les Français sont assez inquiets régulièrement sur la situation de nos finances publiques, mais qu'en même temps qu'ils s'inquiètent de l'état de nos finances publiques, ils insistent aussi beaucoup sur le fait qu'ils souhaitent une baisse des impôts. Comment on arrive à trouver une réponse là, à cette situation où il y aurait une pression fiscale qui est perçue comme trop forte, et je crois réellement que c'est aujourd'hui une vraie question qui est posée, et en même temps au fait qu'on n'arrive pas à maîtriser nos finances publiques.
Tout d'abord, merci pour ce sondage qui chaque année nous éclaire et qui sont, enfin, un sondage qui est toujours très documenté, qui nous interpelle, nous les politiques, qui remet les choses en perspective. Alors, on est tous traversés par des contradictions, les Français et les politiques. Bon, moi, j'ai des collègues qui voudraient qu'on diminue les déficits publics tout en baissant les impôts et en augmentant les dépenses. Donc, quand on est un citoyen lambda, c'est parfaitement admissible. Quand on est un politique, ça devient franchement dangereux. Et en tout cas, je pense que ce discours un peu irresponsable participe à l'inquiétude des Français. Parce qu'on a le devoir de dire la vérité. Et la vérité, c'est ce qu'a rappelé Gérard Collomb, sur une lente dégradation de la situation de la France. Alors, sur le commerce extérieur, on pourrait rappeler les chiffres du chômage il y a 10 ans. La France et l'Allemagne étaient à peu près à égalité. Et les déficits publics étaient à peu près identiques entre l'Allemagne et la France il y a un peu plus de 10 ans. Donc, ça montre bien qu'il y a ceux qui ont su enrayer cette lente dérive, et puis à ceux qui ont peut-être trop attendu, et je pense que la France a trop attendu pour prendre ces sujets à bras-le-corps. Alors, les Français, ils sont d'abord des acteurs économiques assez avertis à titre individuel, parce qu'ils se comportent comme tous les agents économiques responsables. D'ailleurs, tout le monde s'en plaint. Ils font de l'épargne, ils dépensent moins sur les frais généraux, ce que fait toute entreprise bien gérée, et ils diffèrent un certain nombre d'investissements, ils changent leur voiture ou ils diffèrent leur achat de logement, parce qu'ils savent que dans certaines situations, il ne faut pas s'endetter plus que de raison. Et on est dans un pays qui est extrêmement responsable et extrêmement mature de ce point de vue-là, et heureusement d'ailleurs, et c'est ce qui explique peut-être que le sondage montre que la perception à titre individuel est bien meilleure que la perception collective. Alors, moi, je suis comme mon voisin. Je pense que dans la perception collective, les chaînes d'infos à répétition qui martèlent toutes les 3 minutes le même message, ça finit par entrer dans le crâne des gens et le sentiment qu'effectivement, rien ne va dans ce pays. Or, ce qui est rassurant, c'est qu'on voit quand même que les jeunes sont beaucoup plus optimistes que les anciens. Peut-être qu'ils anticipent sur la société de demain, beaucoup plus que, évidemment, notre génération et ceux qui sont plus âgés que nous, qui ont connu une France qui rayonnait à travers le monde. Et je crois qu'aujourd'hui, on est en train de prendre conscience que la France est un pays parmi d'autres, qu'au regard d'un certain nombre de grands pays, eh bien, on n'est qu'un confetti dans le monde. Et chacun sait, au fond, à part quelques militants de cause perdue, chacun sait qu'on ne peut pas faire autrement que de laisser les frontières ouvertes. Parce que, d'abord, il y a l'aspiration des peuples à circuler. Il y a l'aspiration des consommateurs à aller acheter les produits qui sont fabriqués dans un certain nombre de pays voisins et que personne n'envisage des fermetures de frontières. Donc, il faut faire avec. La question qui se pose, c'est comment on peut, dans cet univers qui est complètement bouleversé parce que par rapport à ce qui existait il y a 20 ou 30 ans, eh bien, comment on peut résister et comment on peut reprendre notre place. Alors, il y a des fondamentaux qui sont très bons en France. On est dans un pays inventif, très créatif, qu'il faut accompagner, évidemment, et on voit dans le sondage, les Français considèrent qu'il faudrait investir beaucoup sur l'innovation, la recherche. Donc ça montre stimuler l'innovation et la recherche. 29%, c'est loin d'être négligeable, alors que ça reste quand même très, très abstrait, parce qu'on n'en voit jamais les effets immédiats. Mais ça veut dire qu'il y a une certaine forme de confiance en l'avenir. Alors les deux premiers items, augmenter les petits salaires, baisser les impôts, bon, on voit que c'est très, très fort chez les catégories socio-professionnelles modeste, ça se comprend. D'ailleurs, il ne faudrait peut-être pas parler de salaire, mais de pouvoir d'achat. En réalité, ça serait plus juste parce qu'il y a les salaires et puis les revenus de transfert qui viennent s'ajouter. Tout ça est corrigé quand même par les revenus de transfert et les impôts qui s'appliquent sur les autres catégories. Et donc, c'est logique que la question du pouvoir d'achat soit posée parce qu'il faut quand même admettre que pour un certain nombre de catégories dans notre pays, il y a une vraie question de pouvoir d'achat. Quand on va dire à des retraités qui sont, enfin notamment des femmes isolées, qui se retrouvent avec moins de 800 euros par mois pour vivre, c'est juste pas possible dans notre pays quand on a payé son logement, etc. Donc il y a un vrai sujet sur le pouvoir d'achat. Mais l'amélioration de la compétitivité des entreprises et la baisse des impôts des entreprises, au total, ça fait 60%. Ça contredit complètement le discours qu'on entend, ce sont des cadeaux aux patrons. La compétitivité des entreprises, c'est effectivement restaurer les marges pour que les entreprises françaises, d'abord, puissent continuer à vendre sur le sol français. Parce que dans la dégradation du commerce extérieur, il y a bien sûr la baisse de nos exportations, mais aussi la hausse des importations, parce que nos entreprises n'arrivent plus à concurrencer les entreprises étrangères sur le propre sol national. Et donc, il faut retrouver des marges. Ça veut dire innover, et pas que des innovations technologiques. Il faut être capable d'inventer des produits plus performants, à plus forte valeur ajoutée, dans lesquels on mettra toute l'inventivité et la capacité d'innovation des Français. Ça veut dire aussi que je crois que les Français expriment à travers ce sondage l'idée que aider les entreprises, ce n'est pas aider les dirigeants des entreprises. Et ça, c'est rassurant, parce qu'il y a, une équation qui est mise sans arrêt en avant par un certain nombre de responsables politiques, qui est complètement fausse, et en tout cas, elle est complètement invalidée par ce sondage. Alors, il mériterait d'être poussé un peu plus loin. Mais je crois qu'en tant qu'acteur économique responsable, les ménages français et les Français sentent bien qu'il y a quelque chose à faire. Et au fond, quand on est en relation avec les partenaires sociaux, quand on discute sur un certain nombre au cours d'un certain nombre de tables rondes, et bon, à la région, on fait chaque année 2 conférences sociales. Quand je vois que les organisations syndicales et les organisations patronales sont capables de faire des déclarations communes sur un certain nombre de sujets, alors c'est peut-être spécifique à notre région, et peut-être qu'on est un peu plus en avance ici en Rhône-Alpes et qu'on ressemble plus au Länder allemand qu'à certaines autres régions françaises, il n'empêche que ça veut dire qu'il y a un degré de maturité. Ça n'empêche pas les conflits sociaux derrière, mais en tout cas, ça veut dire qu'il y a des prises de conscience communes. et que ce partenariat qui est assez essentiel fait qu'on peut avancer. Et la conscience, et quand on rentre dans les entreprises et qu'on discute vraiment avec les salariés, je crois que chacun a conscience de la nécessité d'améliorer la compétitivité des entreprises. Donc tout ça, ça laisse quand même plein d'espoir, parce que d'abord les jeunes y croient, c'est eux qui vont créer, qui vont assurer nos retraites, hein, au passage. Enfin, je n'y suis pas tout à fait encore, mais ça va arriver un jour, j'espère. Et en tout cas, voilà, c'est très prometteur. Et nous, les politiques, on se doit de répondre sincèrement aux choses. Je fais des réunions dans ma circonscription, je multiplie les réunions pour expliquer le béaba, échanger avec les Français de ma circonscription. Et je pense que chaque député, les 577 députés, devraient le faire, parce que il y a besoin de médiation sur des sujets complexes et on doit assumer nos responsabilités. En tout cas, on ne doit pas essayer de tricher avec ça. Donc voilà ce que je pourrais vous dire.
Merci beaucoup. Je constate en tout cas qu'il y a un véritable effort de pédagogie de l'économie par les politiques. C'est quelque chose, je trouve, qui est très réconfortant. Et je vous rappelle que le thème que j'ai choisi cette année, c'est « Le progrès social a-t-il un avenir ?» et que je trouve que beaucoup des approches qui sont là sont tout à fait en phase avec cette question. Et que j'espère bien que sur les 3 jours, on aura des pistes, des propositions intéressantes pour répondre à cette question. En tout cas, on a tout de suite évoqué les jeunes avec une vision. Et immédiatement, on pense en effet que si on parle des jeunes, eh bien, c'est la rectrice de l'Académie de Lyon, c'est Françoise Moulin-Civil, qui va être concernée. On a vu d'un côté avec la vision un peu optimiste des jeunes. En même temps, peut-être pour moi, et puis pour tous les enseignants qui sont là, qui font le même métier que moi, on a une inquiétude quand même dans le sondage. C'est que quand on regarde les jeunes, on s'aperçoit que ce sont ceux qui sont les moins intéressés par l'économie. Et l'économie, c'est aussi vivre en société. Enfin, il y a quelque chose qui est du lien, qui est derrière, qui, moi, m'importe beaucoup. Et donc, je me disais, c'est curieux, ce sondage. D'un côté, on a les jeunes qui s'intéressent moins à l'économie, mais en même temps, en effet, ils sont plus optimistes sur l'avenir. Et je voyais même, d'ailleurs, qu'ils sont plus pro-européens, très nettement, que leurs aînés. Et donc, il y a ces deux visions qui cohabitent. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Alors, c'est vrai que ce clivage, évidemment, entre jeunes et moins jeunes, on va le dire ainsi, apparaît très nettement dans le sondage. Bon, en même temps, voilà, ce clivage, il n'est pas uniquement révélé par ce sondage-là. Alors qu'il y ait plus d'optimisme et plus de volontarisme chez les jeunes, et là, je rejoins les propos de Jean-Louis Gagnaire il y a quelques instants, ben, c'est plutôt réconfortant. C'est vrai que peut-être qu'ils savent mieux anticiper, peut-être qu'ils ont moins, effectivement, en tête ce monde des frontières, hein, que nous avons su parfois construire. Et de ce côté-là, je le redis, c'est plutôt réconfortant. En même temps, et vous venez de le rappeler, il y a voilà, cet éloignement peut-être de l'économie que traduit le sondage pour nos jeunes. Alors, c'est peut-être d'abord parce qu'ils sont plus éloignés de la vie active, évidemment, que leurs aînés. Donc, ça pourrait être un élément d'explication. L'autre élément étant peut-être que nous ne faisons toujours pas assez pour bien diffuser la culture économique, évidemment, dans notre système éducatif, même si des progrès considérables ont été accomplis dans les dernières années. J'ai déjà eu l'occasion, lors de cette table ronde, de rappeler, évidemment, ce qu'on a fait à chaque palier de ce système. Mais en tout cas, c'est la raison pour laquelle le ministère de l'Éducation nationale et en particulier l'Académie de Lyon sont associés à ces journées de l'économie. C'est bien parce que nous sommes partie prenante de cette préoccupation qui est évidemment de toujours mieux diffuser, et le fait qu'il y ait évidemment à la fois des enseignants et des élèves présents dans ces journées de l'économie ne peut aller que dans le bon sens. Je crois que voilà, le haut niveau des conférences qui leur sont offertes permet de sans doute mieux construire cette culture de l'économie. Alors, en quelques mots, je voudrais évidemment insister sur le sujet, hein, de ces journées 2014, évidemment, le progrès social a-t-il un avenir? Alors, je dois vous dire que pour moi, pour évidemment la mission que j'essaie d'incarner, le progrès social passe avant tout par l'éducation, et nous y travaillons beaucoup. La réussite à l'école, voilà, l'amélioration surtout de cette réussite à l'école, de la maternelle jusqu'à l'université, est une préoccupation constante. Alors, on sait les limites, évidemment, du système scolaire, en particulier de notre système scolaire français. Je ne reviendrai pas ici sur les enquêtes internationales, mais c'est vrai que c'est montré et démontré. Pourtant, il faut aussi insister sur les points forts de ce système. Et d'abord, le fait que nous ayons des enseignants qui soient recrutés aujourd'hui à un très haut niveau et qui sont profondément attachés aux valeurs de la République et aux valeurs du progrès social en particulier. Et puis la volonté aussi de faire acquérir à tous nos élèves, tous, quels qu'ils soient, de quelque territoire qu'ils soient, évidemment des savoirs et des compétences qui soient à la fois ambitieux et complets. Donc nous travaillons évidemment beaucoup à cette amélioration du système et surtout à cette équité scolaire dans laquelle nous croyons, voilà, garantir l'équité scolaire pour favoriser la confiance dans l'école et puis aussi garantir des conditions de réussite pour tous nos élèves. Alors un certain nombre de questions se posent évidemment à la lumière, voilà, de ce défi du progrès social. Comment préparer la jeunesse évidemment à ces défis? Comment assurer une véritable égalité dans la formation? Comment ouvrir un avenir intéressant, un avenir constructif à tous les élèves et à tous les étudiants? Comment réaliser une bonne adéquation entre des parcours de formation et puis l'évolution de l'économie et des emplois? Comment développer aussi les aptitudes et les personnalités, oui, pour un mieux-être? Et c'est sur ce dernier point que je voudrais insister. Je pense que le progrès social, il passe aussi par la façon dont nos élèves, dont nos étudiants s'approprient naturellement le mieux vivre ensemble, la façon dont ils peuvent construire ensemble ce progrès social. Alors, dans nos écoles, dans nos établissements scolaires, dans nos universités, nos écoles, voilà, je pense qu'il y a un certain nombre de possibilités de construire évidemment l'idée que l'on peut se faire du progrès social et la façon dont nous pouvons le construire ensemble. Alors, je donnerai juste un exemple très rapide. Dans nos lycées, les conseils de la vie lycéenne, ça permet effectivement à nos élèves de penser ensemble, voilà, la construction du mieux-être à l'école, la façon dont ils peuvent aussi s'organiser, hein, comme citoyens en germe, voilà, comment ils peuvent organiser et penser ce progrès social. Et dans notre académie, nous mettons en place cette année, c'est tout à fait nouveau, des conseils de la vie collégienne, parce que on n'apprend jamais à ces jeunes, évidemment, la façon dont on peut construire de meilleures conditions de vie et d'apprentissage. Donc je crois vraiment que cette meilleure communication, cet engagement affirmé des collégiens, des lycéens, puis des étudiants, eh bien, permet de construire un climat scolaire propice à la réussite et puis permet de mettre en place, voilà, les conditions de ce mieux vivre ensemble qui est, je crois, une condition essentielle du progrès social. Donc je pense que le fait que ces journées de l'économie soient consacrées cette année à ce thème absolument majeur permettra évidemment de trouver peut-être des voies communes pour aller vers ce progrès social que nous essayons de construire du mieux possible déjà à l'école, dans nos collèges, dans nos lycées et puis au-delà à l'université.
Voilà. Merci beaucoup. Merci d'ailleurs d'avoir répondu positivement aussi au titre, parce que quand j'ai proposé le progrès social a-t-il un avenir, le combien de fois j'ai entendu « mais de quoi tu parles ?» Et j'ai eu, pourtant, il me semble que c'est un sujet très intéressant, parce qu'on va le faire autrement, et ça serait le lieu pour qu'on montre que les économistes aussi peuvent apporter une réflexion sur le sujet. sur l'école, une école plus ouverte, l'éducation tout au long de la vie, ça c'est des sujets qui moi me passionnent. Et tout au long de la vie, ça veut dire qu'entre l'éducation et puis la vie dans l'entreprise, il y a un lien très fort. Enfin, je pense que l'école ne s'arrête pas à un moment donné, puis l'entreprise prendrait le relais. Or, quand même, quand on regarde dans le sondage, et c'est une question que je voulais poser, évidemment, Emmanuel Imberton, qui est le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Lyon, on constate toujours que le fonctionnement de la vie des entreprises n'est pas ce qui intéresse le plus les sondés. Mais en même temps, comme ça a été dit, même si les Français ont l'impression dans le sondage ne s'intéressent pas vraiment aux entreprises, alors qu'en fait, ils vivent avec les entreprises et par les entreprises, quand on regarde, on s'aperçoit aussi que dans les premières actions engagées, en effet, ils disent il faudrait être plus efficace en matière d'innovation, de compétitivité des entreprises. Alors, est-ce qu'ils ont une vision complexe, un peu comme notre Premier ministre, qui aime les entreprises, mais qui le découvre d'un seul coup? Est-ce qu'on peut faire mieux? Dites-moi.
Alors, l'entreprise, c'est comme en amour. Hein. Il ne suffit pas de le dire, il faut également le prouver. Et on peut envoyer des messages et puis, de temps en temps, dans la vie de tous les jours, faire un peu autrement. Avant de dire quelques mots sur la compétitivité des entreprises, qui est importante, nous, ce qui nous paraît aujourd'hui à nous, entrepreneurs, fondamental, c'est de restaurer la confiance et de permettre aux entrepreneurs de travailler plus librement. On a des entrepreneurs en France qui sont formidables. On a des outils mis en place qui sont très performants. Je pense au crédit impôt recherche. Nous avons des écoles d'ingénieurs parmi les plus brillantes du monde. Nous avons des écoles, des business schools internationales formidables. On a des atouts, on a une imagination, des technologies fantastiques. Et donc, on a à peu près tout pour réussir. Alors, pourquoi ce pessimisme ambiant et pourquoi on ne réussit pas aussi bien que nos espérances pourraient le laisser entrevoir? Je pense qu'il y a fondamentalement aujourd'hui un problème de confiance entre les entrepreneurs et les gouvernants, parce qu'on a l'impression de ne pas toujours être très bien compris. L'alchimie d'un entrepreneur, c'est quelque chose d'assez complexe. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, un entrepreneur embauche ou n'embauche pas? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, il puisse décider d'investissement ou pas décider d'investissement? Qu'est-ce qui fait qu'un jour, il va partir à l'international? Ces questions, elles sont plus complexes qu'on peut l'imaginer. Il ne suffit pas de dire, demain, je vais embaucher, je décrète l'international. C'est un peu plus compliqué que ça. Et il y a, autour de l'élément décisionnel du chef d'entreprise, un point fondamental qui s'appelle la confiance. Il faut que le chef d'entreprise ait confiance à l'avenir, qu'il ait une certaine visibilité dans ce qui va se passer et qu'il y ait surtout une stabilité de son environnement juridique, social et économique. Et c'est à partir de cette stabilité, de cette visibilité, qu'il va pouvoir complètement remplir son rôle, celui qui est de développer son entreprise, de créer de la richesse. Et aujourd'hui, si nos chefs d'entreprise, pour beaucoup d'entre eux, sont attentistes, c'est que la situation économique ne favorisant pas évidemment cette visibilité, on a peu, si vous voulez, d'engagement sur le court et le moyen terme. C'est-à-dire qu'on a, nous, chefs d'entreprise, l'impression que ce qui est décidé le lundi peut être remis en cause le mardi, ce qui est décidé au mois d'octobre peut être mis en cause au mois de novembre, et ce qui est valable cette année ne le sera pas l'année prochaine. Je vous donne un exemple, n'y voyez pas un message politique de ma part. Le président de la République a déclaré il y a quelques jours qu'il n'y aurait pas de hausse d'impôts l'année prochaine. Et ce matin, on entend le secrétaire d'État qui dit, mais tout ça, au fond, qui contredit un petit peu le président de la République et qui nous dit, mais tout ça n'est pas écrit dans le marbre. Eh bien, quand vous entendez ce discours, que vous avez des décisions d'investissement lourdes à prendre, effectivement, ça a une influence. Donc, il faut restaurer ce climat de confiance et donner de la visibilité et de la stabilité à nos entrepreneurs. Parce qu'aujourd'hui, et votre sondage montre quand même que les Français ici sensibles, le point principal, c'est d'améliorer la compétitivité de nos entreprises. Le sénateur maire l'a rappelé, nous avons en France les marges qui sont les plus basses d'Europe. Et dès lors que vous allez vouloir exporter, si vous avez les meilleurs produits du monde, mais qui sont trop chers, vous n'arriverez pas à les vendre. Alors, en France, vous aurez un effet domestique qui jouera pour vous, mais dès lors que vous irez dans les autres pays, ce sera effectivement beaucoup plus compliqué. Il faut donc restaurer la compétitivité des entreprises. Ça passe par une augmentation des marges et par une baisse des charges. Il y a un premier pas qui a été fait avec le CICE, hein, qui vise à diminuer donc les charges des entreprises. Mais il faut encore aller plus loin pour donner à nos entrepreneurs toutes les chances de réussite et pour créer cette richesse. Parce que avant de la distribuer, la richesse, il faut d'abord la créer, évidemment. Quelques mots simplement sur votre sondage et cette dichotomie qu'on voit entre la situation personnelle de chaque personne interrogée et le pessimisme ambiant. Il n'y a pas de question sur le chômage, c'est-à-dire que je ne sais pas si, je sais pas comment ils fabriquent le sondage, s'ils n'y répondent pas ou si la question n'est pas posée. Mais moi, si j'avais on me posait une question en disant qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer la croissance, ma première réponse ce serait évidemment baisser le chômage. Mais je pense que ce n'est pas aujourd'hui la priorité de ceux qui ont un emploi. Eux veulent une augmentation de leur salaire et puis baisser l'impôt des ménages. Je vous rappelle que l'impôt des ménages, il y a moins de 50% des Français qui aujourd'hui en payent.
Merci beaucoup. Il n'y a pas de chômage à la Banque de France, Patrick Haas ? Je suis surpris. c'est en tout cas peut-être le monde de la finance qui n'a pas vu de chômage, puisque si on regarde encore dans le sondage, et je voulais poser la question à Didier Bruno, qui est membre du directoire de la Caisse d'épargne Rhône-Alpes, on a quand même des réponses assez curieuses, à mon avis, après la crise financière. Dans le sondage, les sondés nous disent qu'ils ne sont pas très demandeurs d'être informés sur les produits d'épargne et financiers. Ça m'a inquiété. Je me suis demandé si on n'était pas prêt à rejouer le même scénario où on accepterait des produits financiers sur lesquels on ne serait pas tellement informé. En même temps, il n'y a pas trop à s'inquiéter. Je me rappelle que certains disaient que les journées de l'économie ont été créées en 2008, c'était avec la crise financière, mais je crois qu'on va pouvoir continuer à travailler, puisque sur cette question, l'intérêt est assez faible. Et en effet, la deuxième, qui est liée à ces questions financières, monétaires, c'est que les Français ont toujours une vision quand même qui semble très biaisée du niveau d'inflation. Rappelez-vous que c'était déjà l'idée qui s'était instaurée sur la mise en place de l'euro à accélérer l'inflation. On retrouve cette question-là sur un niveau d'inflation plus fort que la réalité. Alors, est-ce que ça veut dire que les banques, les institutions financières, et c'est pour ça que je pensais aussi à la Banque de France, vous ne feriez pas tout ce qu'il faut pour contribuer à la culture financière des citoyens ?
Alors, effectivement, quand on regarde le sondage, on va dire un désintérêt pour les produits d'épargne financiers, je ne suis pas sûr, Pascal, que si on l'avait fait l'année dernière, on n'aurait pas eu à peu près le même classement. Donc, visiblement, nos concitoyens ne demandent pas à être plus informés. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est assez compliqué de derrière essayer de voir qu'est-ce que ça cache. Première chose, ça cache peut-être le fait que, tout simplement, les produits financiers sont sortis du radar de nos concitoyens. Ils vont plutôt sur les produits bancaires. Ça, c'est quand même les effets directs de la crise. Les actions, les obligations, c'est assez loin de leurs préoccupations. Par contre, c'est vrai qu'ils se sont reportés massivement sur les produits bancaires classiques, qu'ils maîtrisent bien, hein, les livrets, les comptes à terme, le plan d'épargne logement, etc., des produits, bien sûr, que vous connaissez bien. Ça veut peut-être dire ça, tout simplement. Nous sommes bien informés sur les produits que nous souhaitons utiliser, qui sont des produits matures, qui sont des produits sans risque, il n'y a pas de perte en capital, et que les produits financiers sont sortis du radar. La deuxième chose, ça veut peut-être dire aussi que nos concitoyens, et nous dans la banque, on est, j'allais dire, assez confrontés aussi à cette mutation sociologique, que nos concitoyens sont bien informés. C'est vrai que quand vous allez sur les sites internet, vous avez toutes les fiches descriptives, réseau par réseau, des produits, des caractéristiques. Donc il y a une information numérique qui est abondante, qui, je crois, est de qualité, même si des fois elle est importante, hein, qu'il faudrait aussi apprendre à la trier. Mais en tout cas, il y a cette information qu'il n'y avait pas il y a quelques années. Peut-être que ça contribue aussi à cette demande beaucoup plus faible d'information. Et puis, il y a la troisième raison, à mon avis, et c'est peut-être la combinaison des trois raisons qui explique ce sondage, c'est que les banques ont aussi beaucoup progressé dans leur rôle de conseil, dans leur rôle de devoir d'information, dans leur rôle de mise en garde. Vous savez que toutes les lois consuméristes, hein, depuis la loi Neyers, la loi Lagarde, le code monétaire, la MIF, la loi Hamon, etc., impliquent aux banques, hein, un devoir d'information très précis de leurs clients, un devoir de conseil, un devoir de mise en garde. Et peut-être que nos concitoyens considèrent qu'aujourd'hui, les banques font pas mal ce boulot de conseil et de mise en garde. Et c'est vrai que nous sommes des commerçants sous contrainte, et je crois que c'est très bien comme ça, parce que si on veut restaurer la confiance, il faut aussi que nos clients, nos concitoyens aient cette preuve, hein, que nous leur conseillons les meilleurs produits au meilleur moment de leur vie. Donc voilà, je pense que c'est certainement un cocktail de ces trois explications qui fait qu'il n'y a pas un grand intérêt pour les produits d'épargne et les produits financiers. Après, sur votre question, Pascal, plus large, le rôle des banques, je crois qu'on a un rôle très important aussi dans la diffusion de la culture financière. Ce n'est pas un rôle qui est simple, hein, puisque vous savez qu'un banquier, aujourd'hui, dans sa tête, il doit gérer plusieurs contraintes. Nous sommes à la fois des commerçants, nous sommes des conseillers, nous sommes aussi un peu l'expression de la loi, puisque nous fixons des limites à nos clients. Et nous sommes aussi un tiers de confiance. Donc ça fait beaucoup. 4 en 1, ce n'est pas toujours simple à gérer. Mais par contre, on a quand même un rôle important dans la diffusion de cette culture financière. L'autre jour, un client m'appelait, me disait, Monsieur Bruno, on m'a dit que le crédit, ce n'était pas possible parce que c'était à cause de Bâle III. Alors, chef d'entreprise, faire le lien entre la Caisse d'épargne Rhône-Alpes à Lyon, Bâle III, et son crédit, c'est quand même très compliqué. Donc je crois qu'on a quand même un premier travail à faire et on est perfectible. Quand je dis perfectible, tout le système bancaire, pour bien expliquer que la banque, c'est une entreprise comme les autres, c'est pas un service public, c'est une entreprise comme les autres, mais c'est aussi une entreprise qui n'est pas complètement comme les autres, parce que c'est une entreprise qui est régulée, c'est une entreprise qui est soumise à un certain nombre de contraintes, et ces contraintes-là ont des conséquences très microéconomiques pour nos clients. Et on passe beaucoup de temps à former nos conseillers pour leur expliquer le lien entre ces contraintes réglementaires et la décision finale et j'allais dire, la vie de nos conseillers sur le terrain. Ça, je crois qu'on peut encore progresser, et c'est très important si on veut restaurer la confiance, si on veut restaurer une forme de lien, une forme de partenariat dans la durée avec nos clients. La deuxième chose qui me paraît très importante dans la diffusion de cette culture financière et économique, c'est aussi de quitter peut-être des fois la stratosphère macroéconomique pour montrer comment elle s'applique aux clients. Et c'est tout ce vaste sujet sur lequel je pense que les banques françaises progressent vite, mais elles ont encore des efforts à faire, sur la connaissance du client. Ça, je crois que c'est très, très important d'accélérer la connaissance du client, de ne pas toujours chercher à lui vendre des produits, mais à lui trouver des solutions, parce que chaque client est différent, et la solution de la tester, de bien lui faire comprendre que si aujourd'hui les taux d'intérêt sont bas, demain, sous certaines contraintes, ils peuvent remonter, qu'est-ce que ça va donner sur son budget, etc. etc. Je crois qu'il y a une pédagogie de proximité importante à faire qui passe par une meilleure connaissance de son client, une connaissance peut-être moins industrielle et plus sur mesure. Voilà en ce sens. Alors, les groupes Caisse d'épargne avaient créé une association, et j'en profite pas pour faire de la pub, mais pour le souligner, parce que c'est une initiative intéressante, Finance et Pédagogie, qui est une association au niveau national, hein, qui présente un certain nombre de modules de formation financière qui permet à des ménages de s'initier à la construction d'un budget, de bien comprendre comment un budget peut se déformer dans le temps, de bien comprendre quels sont les éléments à prendre en compte, quelles sont les alertes à regarder. Voilà, je crois que c'est très important. En tout cas, nous, banquiers, au cœur de l'économie, au cœur des circuits économiques, on a, je pense, un rôle important dans la diffusion de cette culture financière. C'est, à mon sens, vraiment là que se noue, hein, cette notion de confiance si importante.
Merci. En même temps que je vous provoquais un peu, je suis quand même très content d'avoir la Caisse d'épargne Rhône-Alpes et la Banque de France qui nous soutiennent depuis la première édition. Je dois dire que j'adorerais, par exemple, que les industriels soient beaucoup plus présents dans les journées de l'économie. Vous verriez qu'on pourrait faire quelque chose de formidable dans l'avenir. Pour conclure, je vais me tourner vers Alain Mérieux, parce que je trouve qu'il y a quand même quelque chose qui me frappe, moi, toujours dans les questions qui sont posées, c'est que la, 3/4 des sondés nous disent que leurs enfants connaîtront une situation économique moins bonne que celle de leur génération. J'ai l'impression que ça fait très longtemps que j'entends ça. Et puis, on voit aussi que la plupart des sondés pensent que l'Europe, bon, c'est pas vraiment une solution d'avenir, ça arrive très très tard dans les réponses. Est-ce que vous ne pensez pas qu'on a un peu quand même quelque chose, une espèce de vision du repli qui est en train de s'affirmer et qu'on voit dans ce sondage ?
Alors, la première réponse, c'est d'hier au soir, quand vous voyez la victoire de la petite bestiole qu'ils ont envoyée dans l'espace, et la joie qu'il y avait de l'équipe européenne debout en train de fêter cette victoire, je trouve que c'était une très belle réponse au pessimisme ambiant et contre tout. Donc ça, c'est la première chose. Deuxièmement, il y a beau quand même, je crois que ce pays a besoin, en tous les cas, une entreprise, moi je l'ai vécu pendant toute ma vie, elle a besoin d'une vision, elle a besoin d'un enthousiasme. Les gens ont besoin de savoir pourquoi ils se battent et où ils vont. Je crois que c'est fondamental. Quand vous dites aux gens, voilà, ça va être dur parce que c'est dur. On ne peut pas raconter n'importe quoi. Quand je suis né, il y avait à peu près 2 milliards d'habitants. En 2050, il y aura 9 milliards d'habitants sur la planète. Ça, c'est un choc. Hein. Tout ça relié par Internet ou autre. C'est donc un monde totalement nouveau dans lequel on est plongé et dans lequel nos habitudes ne peuvent pas perdurer. Donc, il faut sans arrêt s'adapter à ce monde. Moi, je suis optimiste parce que je vois les évolutions se faire dans les jeunes collaborateurs que nous avons. Ils sont beaucoup mieux formés que nous. Ils sont bien préparés. Nos universités ont fait d'énormes efforts. Nos écoles, nos établissements de formation sont excellents. Et il y a une prise de conscience générale. Il y a par contre une infrastructure, je dirais presque psychosociétale, qui n'est pas assez bougée. Il y a dans la classe politique en général, dans la classe également patronale pendant très longtemps, le discours, en particulier à Lyon, comment ça se passe cette année, correct, mais l'année prochaine, oulala, ça va être terrible. Bon, depuis que je suis petit, j'entends ça. Et si vous proférez la moindre optimisme sur l'année suivante, on dit « Ah, le salaud !» Bon. Donc, il faut également changer un petit peu notre logiciel, hein, et c'est-à-dire reprendre un peu confiance et transférer cette confiance. Si vous avez des gens qui portent des galons, qui portent des responsabilités et qui se perdent en larmes et en pessimisme, ces gens-là, c'est scandaleux, il faut leur enlever leur galon. Je pense qu'on peut avoir des inquiétudes, on les a, mais quand on a des responsabilités importantes, que l'on soit un élu important, que l'on soit un chef d'entreprise, que l'on soit un consulaire, que l'on soit un banquier, il faut donner un message qui soit celui de la bataille. Il suit la guerre. On est en guerre. Nous sommes en guerre économique. Et ce n'est pas la peine de dire le contraire. Nous sommes en guerre économique. Nous avons en face de nous des puissances nouvelles comme la Chine ou l'Inde qui arrivent, qui débarquent. Et ça va être joyeux. On n'a encore rien vu. Hein. Donc il faut s'y préparer. Et s'y préparer avec la volonté. Il y a quelque chose que j'aime bien, une phrase que je cite souvent dans mes discours, c'est celle de Gramsci. Il dit « La bataille de l'homme est entre le pessimisme de l'intelligence et l'optimisme de la volonté. » Et cette phrase, elle est fondamentale. Si nous n'avons pas envie de nous battre, si nous avons envie d'aller nous coucher, ben on aille se coucher, mais en silence. Mais quand on a envie de se battre, on passe devant, on donne l'exemple. Ce n'est pas facile tous les jours. Quand ça ne va pas, on a intérêt à rester chez soi, parce que sinon on est un peu, on transmet un peu le pessimisme, parce qu'on n'est pas toujours joyeux, hein, loin de là. Mais quand on sort, eh bien, il faut, je dirais, battre tambour, mettre les oriflammes, et puis donner un message d'espoir, en particulier pour la génération qui arrive. Et puis également un autre message que je veux passer, parce que c'est fondamental aussi, quand une entreprise va bien, elle doit avoir aussi le courage de partager et de donner. Je crois que quand on reprend, pour être enthousiaste, il faut avoir une certaine générosité. Et je crois que pour moi, il y a deux denrées indispensables, c'est le courage et la générosité. Et avec ça, vous bâtissez un monde bien meilleur, beaucoup plus optimiste, et qui vont des journées d'économie qui vont être de plus en plus joyeuses. C'est en tout cas bien. Merci.
Bah, Je vous souhaite à tous de continuer dans la joie. Et on passe immédiatement à la seconde table ronde ici de cette matinée. Merci beaucoup, en plus d'avoir respecté dans le temps cette première table.